Cela.
Pas vrai. Ine. Shalom Ouvracha, c'est revenu. Voilà. Voilà, voilà. Ça va mieux. Allô, allô. Shalom, shalom. Il y a quelqu'un? Houston. Mesdames, shalom, shalom. Dites-moi si on peut commencer notre shiur. Hop là. Donc voilà, faites-moi juste un tout petit signe pour me dire si on peut commencer. Voilà. Yofi, Adassa est là. Comment vas-tu, Adassa? Tu ne m'as pas raconté ton Shabbat. Je suis très, très, très choqué que tu ne m'aies pas raconté ton Shabbat dans le Nord. Alex, toi, tu es là, mais tu n'es pas une femme, donc ce n'est pas à toi que je m'adresse ce matin. Mesdames, est-ce qu'on peut commencer? Alors, les amis, nous en sommes dans notre dernier shiur, dans la névoie, dans tous ces états. Alors, pas dans le dernier shiur de la névoie, évidemment, mais le dernier shiur du Sefer Shoftim. Voilà, nous terminons Sefer Shoftim aujourd'hui et nous allons nous intéresser au chapitre 19. Arrête Alex, je m'adresse tout le temps à toi. Nous allons nous intéresser donc au chapitre 19 du livre de Shoftim, Perek Yutet de Sefer Shoftim. Alors c'est parti. On a étudié dans le livre de Shoftim le début du livre pour montrer quelle était la situation compliquée, la situation de séparation entre tribus. Ensuite, on s'est intéressé à l'histoire de Gidon pour s'intéresser finalement à l'histoire de Shimshon. Aujourd'hui, nous venons conclure le livre de Shoftim avec une histoire absolument terrible. Une histoire absolument terrible, mais qui va également marquer, dans sa douleur, le début de la réunification du peuple juif. Et donc, nous allons nous intéresser ce matin à l'histoire qui s'appelle Pilegesh Bagiva. Alors, je vous dis tout de suite, âme sensible, s'abstenir. C'est-à-dire, c'est une des histoires les plus glauques du Tanakh, une des histoires les plus compliquées à comprendre. Pas dans les mots sont très simples, mais le message qui est donné ici et qui nous montre quelle était la situation du peuple juif à l'époque est absolument terrible. Alors, je vous propose d'y aller. Vayi bayamim ahem umelech ein beisrael. Le fait qu'on commence par cette phrase et en ce temps-là, il n'y a pas de roi dans le peuple juif, eh bien, ça montre que c'est ça qui manque. Donc, c'est vers cela qu'il va falloir aller. En ces temps-là, il n'y a pas de roi en Israël. Vayi bayamim ahem umelech ein beisrael. Vayi ish levi. Il y a un Lévi dans l'histoire. Gar beyarkete har Ephraim. Il habite donc dans les montagnes d'Ephraim, c'est-à-dire au-dessus, au nord, on va dire, de Ramallah. Vaikar lo isha pilegesh. Mi Bethlehem Yehuda. Il ne se marie pas, justement. Il prend une pilegesh. Oui, bah attends, Binyamin se fait quasiment décimer. Deux secondes, on vient de commencer. Tu parles de la fin du jeu. On parle de quelqu'un qui va je ne vais pas dire paxer, non, c'est pas comme ça que ça marche, mais il va être en couple avec une femme de Bethlehem Yehuda, et c'est une pilegesh. Et là, il faut comprendre tout de suite que ça montre la situation extrêmement faible, moralement parlant, de cette époque-là. Car il y a, à l'époque de la Torah, deux façons de, si vous voulez, régulariser le couple. Soit on est marié, soit on a des pilakshim, des concubines. Quelle est la différence, techniquement, halakhiquement parlant, entre une mariée et une concubine? Eh bien, c'est très simple. Du point de vue de l'homme, la pilegesh, la concubine, c'est tous les avantages sans les inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une femme qui est obligée de rester avec lui, mais lui n'a pas vraiment d'obligation envers elle. C'est une situation qui est extrêmement précaire pour elle. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle accepterait quelque chose comme ça? En général, une pilegesh à l'époque, c'est quelqu'un qui, pour des raisons X ou Y, ne serait, entre guillemets, pas mariable. C'est-à-dire que pour l'époque, en général, c'est quelqu'un qui a perdu sa virginité. Et donc, plus personne ne veut se marier avec elle. Par contre, il y a des gens qui vont la prendre comme pilegesh. Comme ça, elle, elle accepte, dans la mesure où elle bah, va quand même recevoir le gîte et le couvert. Et donc, pour elle, c'est mieux que de rester toute seule. Oui, c'est pas top top. Évidemment, ça montre une bassesse morale assez évidente. Le Rav Kook va expliquer quelle est la différence. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est marié va prendre des pilakshim alors qu'il peut se marier avec d'autres femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre marié et pilegesh? Dit le Rav Kook qu'à l'époque, les gens avaient une compréhension beaucoup plus profonde de leur identité et donc ils savaient quelle était la femme avec qui ils avaient un lien nishmati. Et c'était les femmes avec qui ils se mariaient, et les femmes qui ne servaient qu'à la reproduction pour avoir plus d'enfants. C'était les concubines. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que cet homme-là, il n'a pas de femme. Il n'a que une pilegesh. On va voir que l'homme qui est au centre de l'histoire, bien que Lévi, et bien que voulant se faire passer pour un tzaddik, est quelqu'un qui montre une bassesse morale évidente, mais qui ne va faire que révéler la bassesse de l'époque. Et cette bassesse est due au fait qu'il n'y a pas de sentiment de cohésion. Alors allons-y. Veigar lo isha pilegesh mi bet lechem Yehuda. Vatizne alav pilaksho. Vatelech mi ito el bet avia el bet lechem Yehuda. Vateisham yamim arba chodashim. Elle s'est mal comportée avec lui. Le Torah nous dit « Vatizne alav » qu'elle aurait été couchée avec quelqu'un d'autre. Seulement Tosfot nous dit que ce n'est pas qu'elle a été vraiment couchée avec quelqu'un d'autre, c'est juste qu'elle ne lui a pas montré un respect fantastique pendant un Shabbat, je ne sais pas quoi. En gros, ils se sont disputés. Et elle est partie, repartie chez son père. Tov, nounou, vayikam, vayakom, c'est à Isha, donc à Ish, Shela. וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה ונערו עמו וצמד חמורים ותביאו בית אביה ויראו אבי הנערה וישמח לקראתו. On voit ici que cet homme, c'est lui qui va, c'est-à-dire, a priori c'est elle qui a fait quelque chose de pas bien, mais c'est lui qui va quand même finalement aller bah, la chercher au bout de 4 mois. De là, nos sages vont expliquer dans le Talmud que ce qu'elle elle a fait de pas bien n'était qu'une réponse à ce que lui faisait de mal. Et qu'est-ce qu'il faisait de mal? Eh bien, il se comportait bekas ou bealimut avec elle. En d'autres termes, on voit un homme ici qui n'a aucun respect pour celle qui est censée construire avec lui la vie. Et donc, elle est partie. Lui, il comprend peut-être qu'il y avait un problème ou alors, tout simplement, bah, il se sent seul et donc, il décide d'aller la chercher. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, voilà. Vaï bayom arevi, lorsqu'ils arrivent, le père de la jeune fille est très heureux de le voir. Et là, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. L'ambiance de l'époque, il est très simple. Pour le père, il a envie que sa fille soit avec quelqu'un. Il sait très bien qu'une femme qui a déjà connu un homme ne va pas se marier avec un autre homme. Personne ne voudra d'elle. Donc, pour lui, c'est la seule chance que sa fille soit avec quelqu'un. Donc, il est content de le voir arriver. Il est. ויחזק בו חותנו אבי הנערה וישב איתו שלושת ימים ויאכלו וישתו וילנו שם. Donc le beau-père dit à son gendre, écoute, reste ici, je suis tellement content que tu sois là, et il lui fait un festin pendant 3 jours, histoire de, quoi qu'il arrive, de désamorcer la situation qui aurait pu commencer. Il reste là pendant 3 jours, il semblerait que le beau-père il comprend qu'il y a un truc qui n'est pas net dans l'histoire. ויהי ביום הרביעי וישכימו בבוקר ויקום ללכת ויאמר אבי הנערה אל חותנו סעד לי בך אל חותנו סליחה סעד לי בך פת לחם ואחר תלכו וישבו ויאכלו שניהם יחדיו וישתו ויאמרו אבי הנערה אל האיש אוהל נא ולבלים ויטב לי בך. Il lui dit, et finalement le troisième jour, il lui fait, le quatrième jour au matin, il lui fait à manger et tout. Il lui dit, écoute, tu vas pas partir comme ça le ventre vide, ressors-toi machin, après tu partiras. Et quand la journée a bien commencé, il dit, écoute, il est déjà tard, allez, reste ici. Et il reste. Finalement, וישוב אכלו שניהם וירדה וישתו ויאמר אבי הנערה איש אל הנער וילין ויטב לבך. ויקום האיש ללכת ויפצח בו חתנו וישוב וילין שם. וישכב בבוקר ביום החמישי ללכת ויאמר אבי הנערה סעד נא לבך והתמהמהו עד נטות היום וילכו שניהם. ויקום האיש ללכת הוא בלקשו ונערו ויאמר לו חתנו אבי הנערה הננה רפה היום לערוב לינונה הנה חנות היום לין פה ויטב לבבך והשכמתם מחר לדרככם והלכתם לעליך. Le cinquième jour, le beau-père lui dit, écoute, reste, encore, il fait le même truc. Tu vois qu'il a envie qu'il reste. Il pense que s'il part, ça ne marchera pas. Mais finalement, il part pas, enfin, il va pas rester. Il va pas rester, il s'en va. Il s'en va parce que notre homme de Har Ephraim, il a un problème, et on va le voir beaucoup plus tard, avec Béné Yehuda. Il semblerait que Béné Yehuda, c'est pas des gens avec qui on a envie de rester. On va voir pourquoi. Finalement, il dit non, je pars. Velo ava ish lalun vayakom vayelach vayavo ad nochach yevus hi Yerushalayim. Veimot semet hamorim chavushim upilaksho imo. Ils arrivent donc, ils ont marché depuis Bethléem. Ils ont commencé à marcher déjà vers 4-5 heures, quand le soleil commençait à se coucher, et ils sont partis. Où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont Be'ar Ephraim. C'est-à-dire que, essayons deux secondes de vous imaginer la carte. Ils partent de Bethléem, au sud de Jérusalem, et ils veulent aller au nord, vers les montagnes d'Ephraim, on a dit au-dessus de Ramallah. Là, ils arrivent, d'après le texte, au coucher du soleil Mamash. Donc, ils ont marché quoi? Une heure, deux heures, c'est tout. Et ils arrivent, im Yevus. והיום רד מאוד, אנחנו נהיה ממש כמעט au coucher du soleil. Et donc à ce moment-là, eh bien ils arrivent à l'endroit où on peut voir Jérusalem. Où est cet endroit? הם עם יבוס והיום רד מאוד, ויאמר הנער אל אדוניו, לך נא ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. Donc, son serviteur qui est avec lui, il dit, regarde, il fait presque nuit. Regarde, là-bas, il y a la ville, Yevus. Viens, on va dormir là-bas. Où sont-ils? Eh bien, c'est très simple. Daï! Bekitsour, ils arrivent donc depuis Bethléem. En fait, ils ont marché tout le Derer Bethléem. C'est la rue Derer Bethléem aujourd'hui. Eh bien, c'est Derer Bethléem qui va se rattacher à Derer Hebron. Eh bien, ça va jusqu'à Bethléem, ensuite à Hebron. Eh bien, ils vont marcher donc dans toute cette rue-là, très long, pendant une bonne heure et demie, et ils arrivent au bout de Rehov derrière Bethléem. C'est-à-dire, ils arrivent à Ganapahamon. Pour ceux qui sont un petit peu jérusalémiens. Ils arrivent au Ganapahamon, au bout de Emek Rephaim. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, pour ceux qui connaissent là-bas au Ganapahamon, il y a une espèce de fontaine comme ça. Une fontaine avec des statues de lions. Zéboul, à cet endroit-là qu'ils arrivent. Ils arrivent exactement à cet endroit-là, car de là, avant que la mairie ne plante des arbres et ne construise des hôtels et machin, eh bien, tu peux de là voir la colline de Ir David, au loin. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils voient Yevus, Jérusalem, Ir David, au loin. Et donc, ils sont là à Ganapahamon. C'est la frontière entre la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. C'est-à-dire, quand tu arrives de Bethléem Yehuda, tu arrives à Ganapahamon, eh bien, tout ce qui est derrière toi, c'est la tribu d'Yehuda. Tout ce qui est devant toi et à droite, c'est Binyamin. Donc, ils arrivent vraiment à la croisée des chemins. Le plus proche, c'est d'arriver à Ir David. Dans une heure, ils y sont. Même pas, une demi-heure, ils y sont. Et il va répondre quelque chose de très important. Il dit, pas du tout. Mamashlo. Il dit, non. Alors, il dit, va yomer elav, verset yudbet, va yomer elav, adonav, lo nasur el ir nochi, asher lo mibne Israël henna, va avarnu ad giva. Il dit, mais ça va pas la tête, je ne vais pas dormir dans une ville de non-juifs. C'est-à-dire que n'oublions pas qu'à cette époque-là, Yévous, c'est encore une ville cananéenne. C'est la dernière ville cananéenne qui reste, puisque Yehoshua n'a pas réussi à conquérir Yévous. En d'autres termes, il dit, moi, j'ai beaucoup trop d'estime pour le peuple juif pour aller dormir chez des goyim. Bon, il faut comprendre qu'à l'époque, on a quand même une situation de guerre. C'est une situation qui n'est pas claire entre les habitants cananéens et les juifs qui sont en Israël. Donc, on peut comprendre sa réflexion. Mais on voit ici que c'est un homme qui a une bassesse morale évidente, il a une pilegesh et tout ça, mais qui a un sentiment profond pour le kavod du peuple juif. C'est ça qui l'anime. Au-delà de toutes ces avérotes, c'est ça qui l'anime. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit non, on ne va pas aller là, on va aller à Dgiva. Alors, c'est où Dgiva? Alors, ce n'est pas Dgiva Shmuel, ce n'est pas Dgiva Zev. Dgiva, c'est ce qu'on appelle en archéologie Tel El Ful, ou en bon français, Pisgat Zev. Voilà, quand tu arrives à Pisgat Zev, Merkaz, c'est ce qu'on appelle là-bas Tel El Ful. Bon, c'est à côté, quoi. Mais c'est là-bas Dgiva. C'est la ville de Givat Binyamin dans la tribu de Binyamin. C'est ce qu'on va appeler Givat Shaoul, pas de Jérusalem, mais la Givat Shaoul de Shaoul, qui vient de Binyamin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il se dit non, on ne va pas aller là-bas, on va remonter Kvish Mispar Echad, on va passer par les Mélonotes, et on va prendre le Kvish Begin, et on va monter, machin, et on arrive à Giva. On en a pour un bon 3 heures de marche. Bon, on est à Dodan, disons qu'en 1h30, on l'a fait. Je préfère marcher un peu plus, mais aller dans une ville juive. Donc, on voit ici qu'il y a un vrai souci nationaliste. Et qu'est-ce qui se passe? Yomer le Naharo, lecha venikreva be'achat amekomot velano bagiva o barama. Si on n'est pas, si on peut pas trouver à Giva, on ira à Rama, c'est une autre ville qui est à côté. Vayavru, vayelechu, vatavo, lahem, ashemesh, etzel, agiva. Asher le Binyamin. Donc ils sont arrivés finalement, ça y est, il fait nuit. Vaya surusham lavo la lune begiva, vaya vo vayeshev birchova ir, ve en ish measef otam abaita la lune. Ils arrivent birchova ir. Mais rechova ir, ce n'est pas comme nous on dit aujourd'hui la rue. Rechov, c'est kikar. C'est la place centrale de la ville. C'est ce qu'on appelle, pourquoi est-ce qu'on appelle ça rechov? Kizemakom rachav. Donc ils arrivent sur la place de la ville, la place du village, et ils attendent que quelqu'un soit suffisamment sympa pour les inviter à dormir. Ça se fait. Mais en ish, personne ne les invite à venir dans la ville, se reposer. Donc ça commence à montrer qu'il y a un problème à Giv'a. Un problème de quoi? De Achnasat Ochim. Un problème de Chesed. Et vous allez voir que plus on va se rapprocher, plus on va continuer à lire cette histoire, et plus cette histoire va sonner connue. Et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà reconnu l'histoire. Des gens qui sont des étrangers, qui arrivent dans une ville, et personne ne veut les inviter à dormir, et ils disent, bon, c'est pas grave, on va dormir dehors. Évidemment que ça sonne connu. Ça sonne Sdom. Et en fait, toute l'histoire qu'on va lire maintenant ressemble comme deux gouttes d'eau à Sdom. On parlait tout à l'heure de chute morale du peuple juif. On en est arrivé à être sdomim. Venez, on va comprendre de quoi il s'agit. Veine ish zaken ba miman maaseu min asade ba erev ve ish me'ar efraim ve hu gar ba giv'a ve ansha makom ben yemin. Ha! Il y a un homme, un vieil homme, qui arrive min asade, mais il ne fait que être résident temporaire à Giv'a. En fait, cet homme, il vient lui aussi de Har Ephraim. Il n'est pas de la tribu de Binyamin, il est de la tribu de Ephraim, et il n'est que résident ici temporaire. Comment c'est possible? Comment c'est possible à l'époque que quelqu'un n'habite que temporairement dans une ville? Et tout simplement, cet homme, il vient de Har Ephraim, donc sa nachala, le pays qu'il a, enfin la terre qu'il a reçue en héritage, c'est dans la tribu de Ephraim. Mais ça veut tout simplement dire qu'il s'est marié avec une fille de la tribu de Binyamin qui n'avait pas de frère et qui a donc hérité de la parcelle de son père. Et donc lui, maintenant, a hérité d'un champ qui n'est pas dans sa tribu, qui est d'Abinyamin, et donc de temps en temps, il vient chez Binyamin. Mais tu vois qu'il y a un grand problème, il n'est pas bienvenu vraiment ici non plus. Les Binyaminites ont un vrai problème avec les étrangers. Agave, il y a des raisons historiques à cela. N'oubliez pas que Bnei Binyamin sont les seuls qui ont encore des Cananéens dans leur territoire, puisque ce sont chez les Binyaminites qu'il y a eu l'histoire de Givon. Donc on a des Cananéens qui habitent dans la tribu de Binyamin et qui n'arrêtent pas de saouler les Juifs. Donc on peut comprendre qu'ils aient un ressentiment par rapport aux étrangers. Bekitsour, cet homme-là, d'ailleurs entre parenthèses, Uba min ha-sadeh, il est marqué ici, Veine ish zaken ba min ha-ma'aseh min ha-sadeh ba-erev. Vous savez, la Mishnah, elle nous dit, Adam ba min ha-sadeh ba-erev, venichnas le-bet ha-knesset. Donc, quand quelqu'un a fini la journée de travail, il rentre à la synagogue. S'il a l'habitude de lire la Torah, alors il lit la Torah. S'il a l'habitude d'étudier les Mishnah, il lit la Mishnah. C'est intéressant que la Mishnah, elle ne nous a pas dit quand l'homme il revient de la yeshiva ou du kollel le soir, alors il va étudier la Torah à la synagogue. La Mishnah, elle ne savait pas qu'on pouvait aller au kollel toute la journée. La Mishnah, elle a dit quand quelqu'un il rentre du travail, alors il va étudier la Torah. C'est-à-dire que oui, à l'époque, on étudiait tous la Torah. Quand ? Une heure, une demi-heure. Quand on était à la synagogue le soir, après la journée de travail. Évidemment, comment tu vas aller au kollel, Max, qui va te financer, vu que c'est interdit de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Donc, cet homme-là, il dit, Ine, Vaïsaena vayar et aish a oreach bechovair, vayomer ish azaken, aish azaken, anna teler, omein tavo. Vayomer elav, ouvrim anarnu mi betlechem Yehuda, adir ketar Ephraim, misham anochi, velech ad betlechem Yehuda, ved bet Hashem. ואלך עד בית לחם יהודה, ואת בית השם אני הולך, ואין איש מאסף אותי הביתה. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, ce monsieur? Il dit, où tu vas? Bah, il dit, je viens de Bet Lechem Yehuda, mais je vais à Ephraim, El Beit Hashem. Donc, où est-ce qu'il va, le monsieur? Bah, le monsieur, il va à Shiloh. Il va à Shiloh. Il va au Mishkan. Mais personne ne m'a invité. C'est-à-dire que cette paracha nous met l'accent sur le grand problème qu'on a dans le peuple juif à ce moment-là, c'est ce sentiment de chacun pour soi. Ce sentiment de chacun pour soi va être le fil conducteur, a été le fil conducteur de tout le livre de Shoftim, et il est temps de régler ce problème-là. Alors allons-y. Veine, il lui dit, t'inquiète pas, וגם תבן וגם מספו יש לך מורנו, וגם לחם ויין יש לי, ולעמתך ולנער עם עבדך, אין מחסור כל דבר. T'inquiète pas, je ne suis pas là pour prendre tes réserves, j'ai à manger, j'ai à boire, tout va bien. Yomer Aisha Zaken, Shalom lach, Rak kol machsor cha alay, Rak barchov alten. Non, t'inquiète pas, je t'invite, il n'y a pas de problème. Ils sont tous les deux de Har Ephraim. Donc il y a une sympathie qui se met en place entre les deux, mais il dit surtout, ne dors pas dehors. Il semblerait que ce Zaken, mais Har Ephraim, qui habite ici, sait très bien comment les gens de Giva se comportent avec les étrangers. Veine. הנה, ועשה כף א', ויביאו לביתו, ויבזרה לחמורים, ויחצו רגליהם, ויאכלו וישתו. הם המטיבים את ליבם, והנה אנשי העיר, אנשי בני בליעל, נסבו את הבית, מתדפקים על הדלת, ואומרו אל האיש בעל הבית, הזקן, לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. Voilà. On a parlé tout à l'heure d'être un copier-coller de Sdom. Et ben voilà. Copier-coller de Sdom. Ils sont à la maison. Et là, les hommes de la ville viennent voir le Baal HaBaït et disent « Sors l'invité qui est chez toi, qu'on le connaisse, bibliquement parlant. » C'est pas chou de Sdom. Mamash kacha. Je veux dire, tu peux pas descendre plus bas. Cette paracha-là, chapitre 19 du livre de Shoftim, c'est la déchéance, la décadence la plus grande que le peuple juif va vivre dans toute son histoire. C'est-à-dire qu'on est au plus bas. Tu ne peux pas aller plus bas. Et c'est de ce plus bas que va naître le début de la réparation. Puisque c'est de ce plus bas-là, comme j'ai dit, que va naître le début de l'union du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardez, la suite est absolument insoutenable. ויצא עליהם האיש בעל הבית ויאמר עליהם על החי, אל תראו נא אחרי אשר בא האיש הזה. נו להפרפה פסם ונביטה. אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה ביתי הבתולה, ופילגשהו, הוציאה נא אותם, ואנו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם, ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. On est dans le même délire, mamash, comme avec l'autre, qui dit, bon, bah, ça va, j'ai deux filles, prenez-les. Et là, le mec, il dit, j'ai une fille, et lui, il a une pilagèche, et alors, on vous les sort, faites-vous plaisir. Ça va bien? Tout le monde va bien? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? À l'époque de Lot, on peut comprendre, il y a une perversion fantastique à ce d'homme. Mais lui, on est dans le peuple juif. Nous, on réagit comme ça. S'il en est à réagir comme ça, ce Ishdaken, Mehar Ephraim, c'est qu'il sait très bien que sinon, ils vont venir, ils vont Bémet casser la porte, ils vont venir prendre le mec. C'est-à-dire qu'il est conscient de la chute morale terrible de Béné Binyamin. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben voilà. Et né. ולא אהבו האנשים לשמוע לו, ויחזק האיש בפילגשו, ויוצא עליהם החוץ, וידעו אותה, ויתללו בה כל הלילה, עד הבוקר, וישלחוה בעלות השחר. פדמו. לא, מילה פריסה פילגש, היא לא רבה לנסה כמה נונוס, או שיין אורג'ה, איבון לביולט ותנמי. Au petit matin, ils sont calmés, ils ont dit « Ah là, elle est rentrée. » Absolument insoutenable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, le mec, il a bien dormi. Il est « Va t'avoir Aïcha l'ifnot boker, l'ifnot boker, va t'y pol petar betaïch, asher adoné à Cham, à Daor. Va yakom adoné à boker, va yiftar de la tota bait, va yitse la lechet de darko. » והנה האישה פילגשו נופל את פתח הבית וידיה על הסוף. למק, ילדים חייבית פרטיר. למק, ילדים, בואו, זה יש בנורמי, עלה, אבו לא, און יטורן. סף כסף פילגש, והיא פרסק את הפיני. היא פרסק להעביר שם, תשובה כאילו לה פעה ורמון ורמון, עם גרונד אספים פועל. סמק לסיפן צדיק, אה? זה הרשע גדול. כסיפס. היא לבוא. ואז הוא אומר, ידי, אבו, אתה לא טועה. ויאמר אליה, קומי, ונלך ואין עונה. ותי ביתון, חזל נודיס כאלה מורט. הפרטוס כאלה ויקוס את נוי. ואין עונה. טוב, נו, עשרו על הרצוח פומפה, ויקחה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו. ויבוא אל ביתו, ויקח את המאכלת, ויחזק בפילגשו, ונתחיה להצמיה לשני מסר נתחים, וישלחיה בכל גבול ישראל. C'est-à-dire le mec, il la ramène chez lui, et quand ils arrivent à la maison, il la pose sur la table, il prend son couteau de cuisine, et il va la couper en 12 morceaux. Quand je vous dis qu'on est dans l'histoire la plus basse de basse, et il envoie chaque morceau à une des tribus d'Israël. Enfin, juste un problème, c'est que Lévi, ça compte pas, et évidemment que Binyamin, il ne va pas leur envoyer quelque chose, donc ça fait plus que 11. Reuven, Shimon, donc Lévi, non. Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zvulun, Binyamin, Ephraim ou Menaché. Donc on est bon. D'accord. Sauf que Binyamin, on a dit que non. Donc il n'y en a plus que 11. Oui, mais Menaché, il est obligé d'envoyer deux parties. Une pour ceux qui habitent de l'autre côté du Jourdain et une pour ceux qui habitent de ce côté du Jourdain. Donc 12 parties. En fait, il veut rassembler tout le peuple juif. Et j'imagine qu'il y avait une petite lettre avec. Puisque regardez, Veshalcha Avrolvutzal Veraya Kola Roe Veamar Loni Eta Veloni Rata Kazot Miyemot Alot Bene Israel Meretz Mitzrayim Adayom Aze Simulachem Alea Atsu Vedaberu. En gros, il a mis un message avec. Regardez ce que les Bnei Binyamin ont fait. En fait, il raconte toute l'histoire. Que les Bnei Binyamin sont devenus Anches Dom. Ce que lui fait est terrible. Ce mec, c'est un rachat d'amour. Mais il révèle un problème beaucoup plus global dans le peuple juif que portent les Béné Binyamin. Cette histoire est marquée à la fin du livre de Shoftim, mais elle se passe au début du livre de Shoftim. On va le voir tout de suite, parce qu'on va rencontrer la personne de Pinchas. Donc si Pinchas est toujours là, c'est qu'on est vraiment au début du livre de Shoftim. Pourquoi est-ce que c'est marqué à la fin? Parce que ce qui va en sortir, c'est la réunification du peuple, qui est, on va dire, le point de départ au livre de Shmuel. Mais on voit ici que Béné Binyamin sont en train de porter sur eux la plus grande déchéance du peuple juif. Et c'est face à cette bassesse morale que Am Israël va s'unir. Et ce qu'on veut nous apprendre dans ce chapitre-là, ce qu'on veut nous apprendre dans cette histoire, c'est que l'union du peuple juif se fait d'abord dans la douleur. Regardez. Vaïtse kol bene Israël. ותקאל העדה כאיש אחד למדן ועד באר שבע וארץ הגלעד עד השם המצפה. Tout le monde arrive à Mitzpa. Mitzpa, semble-t-il, être là où il y a aujourd'hui le kever de Shmuel Hanavi. ויתייצבו פינות כל העם כל שבטי ישראל בקהל עם האלוהים 400 אלף איש רגלי שולף חרב. 400 000 juifs se réunissent pour partir en guerre contre les Bnei Binyamin. Alors, est-ce que les chiffres sont exacts? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a ici la réunion du peuple juif. Pourquoi? Pour faire face à cette bassesse insoutenable du peuple juif. Et oui, quand un Israël est en danger, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, alors il se réunit. Les bases de la réunification du peuple juif sont dans la tourmente. Comme on a vu en Égypte, comme on verra juste après avec Shaoul et David. Comme disait le Rav Israël Meir Lao, qu'à Auschwitz, le peuple juif a été capable d'apprendre à mourir ensemble. Il va falloir maintenant apprendre à vivre ensemble. Rabotai, cette paracha du Sefer Shoftim, chapitre 19, est le point de départ de la réunion du peuple juif. Malheureusement, elle se fait dans les larmes et dans la douleur. Et dans le sang. Mais c'est le point de départ de ce qui va finalement arriver, amener à l'identité globale d'Israël. Regardez. Vaishmou ben Binyamin ki alou ben Israël amitzpa vayomrou ben Israël dabrou echa ni et arabazot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous attaquez tous comme ça? Vayani ish alevi ish aisha nirtzacha vayomar givata asher le Binyamin bati ani upilakshil alun. ויקומו עליי בני הגבעה, ויסובו עליי את הבית. לילה, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי עינו לתם ותמות. זה רק מות להסתואר למק. ואולי סקי הריבה וכלי בני בנימין. היא רק מות הכי, או בני בנימין. פורקווה? פורקווה אין ריאקציון בלחפר. אבידמו. ואוחז בפילגשי, וענתחיה ושלחיה בכל שדה נחלת ישראל. כי אסור זימה ונבלה בישראל. הנה, כולכם בני ישראל, הבו לכם דבר ואת צהלום. ויקום כל העם כאיש אחד, למור לא נלך איש לעלו, ולא נסור איש לביתו, ואתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל. ולקחנו 10 אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף, ואלף לרבבה, ולקחה צעדה לעם לעשות לבואם לגבע בנימין, בכל הנבלה, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל האיש, כל איש ישראל, אל העיר, כאיש אחד חברים. On est en train de voir, ça y est, la réunification du peuple juif. On n'est plus en tribu, c'est Ish Israël. Et c'est très important de comprendre que le point de départ de l'union du peuple juif se fait sur un problème moral. On va voir que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas au début? Parce que Amisraël, lui aussi, n'est pas au niveau moral. Mais le fait que ce qui pousse à se réunir, c'est sur un problème moral, nous montre la voie. Nous montre que la réunification du peuple d'Israël, idéalement parlant, c'est sur une base morale. Bien, 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 bien plus tard, lorsqu'on verra cet autre rachat gamour, Hitler y marche chez moi, eh bien, dira notre Hitler dans un livre qui s'appelle « Hitler m'a dit ». Lorsque il y a un général allemand qui s'appelle Rauchtig, qui en 1938 comprend que son patron est en train de partir en cacahuète complètement, réussit à s'enfuir aux États-Unis. Et là-bas, il écrit un livre qui s'appelle Hitler m'a dit. Les différentes discussions qu'il a eues avec lui. Un jour, il demande à Hitler pourquoi les Juifs. Et Hitler de répondre parce que l'Europe a été fondée sur deux piliers, la sagesse et la morale. La sagesse nous vient de la culture gréco-romaine et la morale d'Israël. Or, la morale a affaibli l'Europe. Il faut se débarrasser de la morale, se débarrasser d'Israël. Il avait compris que Israël représente les bases de la morale du monde. Si Israël, au sein du peuple d'Israël, ses valeurs morales de base ne sont plus là et qu'on est devenu Sdom, ça, c'est Kavadom. C'est la ligne rouge qui fait que Am Israël, il sort en guerre et il dit non, c'est pas possible. Nous, on n'acceptera pas un truc comme ça. Très bien. Vaishlechu shifte Israël anashim bechol shifte binyamin lemor. Ma'ara azot asher nieta bachem. Ve'ata tenu et anashim bene belial asher giv'a venemitan. Unevara ara mi Israël velo avu bin. Ils disent au bnei binyamin, voilà, vous savez toute l'histoire, donnez-nous les gens de Giv'a. Comme ça, on détruira ce mal dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'au départ, on n'est pas là pour tuer les Bnei Binyamin. On veut mettre au courant les Bnei Binyamin qu'il y a un vrai problème chez eux. Et Bnei Binyamin, ils viennent et ils disent « Non. Non. Em shelanu. Velo ava. Velo avu Bnei Israël. Velo avu Binyamin nishmoa bekol achehem Bnei Israël. Vayasefu Bnei Binyamin minaharim magivata latset lemilchamaim Bnei Israël. Vayitpakedu Bnei Binyamin bayom ahu. מהערים 26 אלף איש שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. Ils sont 26 000 les Bnei Binyamin. Vous comprenez bien que ces chiffres-là ne sont pas par hasard. Les Bnei Binyamin, ils vont se battre contre les Bnei Israël. Mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est-à-dire qu'ils veulent protéger leurs frères. Il y a un sentiment de fraternité qui est profond chez eux. C'est bien, mais ce n'est pas bien là. C'est-à-dire qu'ils viennent en 26 000, ils viennent au nom de Dieu pour dire non, la chva, doute dans l'âme Israël, c'est très important. Sauf qu'eux, ils ne le vivent que dans leur tribu. C'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose de positif, mais qui est très mal exécuté. De la même façon que eux, là aussi, les Bnei Israël représentent quelque chose de positif, mais ils sont portés par des gens qui l'exécutent mal. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, commencent les combats. Veine. Vayasfu, donc on a dit, voilà, verset Tetzain. Je suis cette fois au chapitre, on est rentré dans le chapitre Kaf, hein, évidemment. Mikol ha'am hazeh sheva me'ot ish bachur iter yad yemino. Kol ze kol lea ba'even ela se'ara velo yachati. Bon, ce sont tous des grands tireurs d'élite, les gens de Binyamin. Veish Israël itpakdu levad mitnei Binyamin arba meot elef ish sholef harev kol ze ish milchama ve'yakumu ve'yalu beder ve'yishalu be'elohim ve'omru b'nei Israël mi ya'ale lanu batechila la'milchama im b'nei Binyamin ve'yomer Hashem Yehuda batechila. Les b'nei Israël, ils sont venus avec eux et ils ont amené avec eux la Aaron Abrit. Puisque le seul endroit où on a le droit de l'ishol be'urim ve'tumim, c'est là où il y a le Aaron Abrit. Donc ça veut dire qu'ils étaient avec Aaron Abrit. Ils étaient avec Aaron Abrit et bechol zot. Ils vont demander donc qui doit être le premier à mener la guerre. Omer Hashem Yehuda Yahaleh. C'est Yehuda qui va mener la guerre. Et on va voir que, ben voilà, lorsque la guerre commence, ben il est. יהודה יעלה, ויקומו בני ישראל בבוקר, ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל למלחמה עד הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בבני בישראל ביום ההוא, 22,000 איש ארצה. יום פר. לבני ישראל פר דפסו בני בנימין. בני בנימין תו 22,000 של בני ישראל. לאוסי ששיפר נפה אנודן. 22,000 זה לנומר דלוויים. Dans le décompte, dans le désert. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème chez les Lévi'im qui étaient censés éduquer et rassembler le peuple juif. Ben, ils ont complètement manqué à leur rôle. Mais je ne comprends pas, si c'est Dieu qui a dit « Yehuda, Yahaleh, Batechila », on devrait gagner. Ben non. Parce qu'il y a un problème de Bethléem Yehuda. Tout a commencé là-bas. Donc, on est dans une situation où les Lévites n'ont pas fait leur rôle de réunion du peuple juif, où les Béné Binyamin sont descendus Bechef et la Madriga, et où les Béné Yehuda ne prennent pas leur responsabilité de dirigeant. Azma Koré. Ben finalement, il va avoir une deuxième attaque. Parce qu'on n'a pas réglé les problèmes. Mais lorsque finalement, on redemande à Hachem, À la fin de l'histoire, les Bnei Israël comprennent que eux aussi ont un problème de hardout. Vayifku, vayatsumu, vayalu olot. Bnei Israël vont faire tshuva eux aussi. Ils sont portés cette fois par Pinchas ben Eleazar à Cohen. Ce même Pinchas qui, dans la paracha de cette semaine, va tout simplement montrer que l'honneur du peuple juif ne peut pas être dévoyé. Et c'est lui qui va faire le maasé Pinchas face à Zimri et Cosby. Cette fois, Amisraël a compris. Et d'où on le sait ? Eh bien, parce qu'il appelle Binyamin avec toute l'animosité qu'ils ont pour eux. Achi. Et donc, à partir de ce moment-là, Zéou. Dieu a vu que Bnei Israël ont compris l'erreur et dit, c'est bon, maintenant vous allez vous battre et cette fois, vous allez gagner. Et la suite de l'histoire, elle est très simple. Béhémet, Amisraël, va partir en guerre une troisième fois. Béhémet, on va gagner. Seulement, on va trop gagner. On va trop gagner et finalement, eh bien, vu que les Binyamin ont jeté toute leur force dans ce combat et vont être battus, eh bien, on va finir par pratiquement décimer toute la tribu de Binyamin. Il ne restera plus que 400 hommes. Le problème, c'est qu'avant de faire tshuva, hein, les Béné Israël avaient promis, avaient fait un serment comme quoi plus personne ne donnerait leur fille aux Béné Binyamin. Et maintenant qu'il ne reste plus que 400 Béné Binyamin, comment vont-ils se marier, ces gens-là? Il va falloir trouver un stratagème. Eux, ils ont promis de ne plus donner leur fille. Donc, on va d'abord aller s'occuper d'une autre ville, une ville qui n'a pas prêté main forte aux Béné Israël pour se battre, et qui donc, eux, on va donner leur fille aux Béné Binyamin. Et on va aller faire aussi Khatifat Abanot Beshilo. Tout est organisé, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la fin de l'histoire. Lorsque les Béné Binyamin, les 400 derniers Béné Binyamin, parce qu'on ne veut pas détruire un chevet d'Israël, on a compris maintenant qu'on a besoin d'être véritablement ensemble. Donc, qu'est-ce qui va sortir de toute cette histoire? Eh bien, c'est très simple. Ce qui va sortir de toute cette histoire, c'est qu'au final, de ces 400 femmes qui vont être prises par les Béné Binyamin pour femmes, eh bien, le Talmud nous dira qu'en fait, il n'y en a que 399 qui sont prises par les hommes de Binyamin, et il y en a une qui est Chotefet Oto. C'est-à-dire une femme qui va prendre le 400e homme de Binyamin. Pourquoi? Parce que ce 400e homme de Binyamin, il est trop de sa noix. Non, moi, je ne veux pas y aller. Et donc, c'est cette dernière femme qui dit, bon, allez, viens, toi, tu me maries avec moi. Nous dirons nos sages que c'est qui? C'est qui ce monsieur-là? Et bien ça, je vais vous dire, ce monsieur-là, c'est Shaoul. C'est Shaoul, mi Binyamin, qui est Tsanoua Meod, Ish Tzadik Meod. Et donc, finalement, toute cette histoire va amener à la prise de conscience que Binyamin ou Achi, que même dans le peuple juif, s'il y en a un qui part en cacahuète, on ne peut pas se détacher, se désolidariser. Nachon, des fois, on va énormément dire c'est l'obéceder ce que tu fais, il va falloir corriger les problèmes au sein du pays, mais pas parce qu'il y a une population dans ce pays qui part en cacahuète. Eh bien, on a le droit de dire ah, vous n'êtes plus avec nous. Enfin, Amisraël comprend qu'il fait partie d'une seule et même unité. Et de cette histoire là du sang, des larmes, du drame de cette histoire là
va sortir Shaoul. Et Shaoul deviendra le premier roi d'Israël qui va réunir le peuple juif. En d'autres termes, la dernière histoire du livre de Shoftim, Karine, nous arrivons à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, on nous dit, je saute plein de versets, et j'arrive donc à la toute fin du livre de Shoftim, et on nous dit la chose suivante. Dans le verset Kaf Dalet du livre du chapitre Kaf Aleph, ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו. On a réuni tout le monde, chacun, maintenant on a compris qu'on était réunis, la guerre est terminée, tout le monde retourne dans sa tribu. ובימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. Cette phrase qui a été le point d'ouverture de cette parasha-là, qui a été le point de problème de cette parasha-là, est en fait la phrase annonciatrice, la phrase spoiler de l'enjeu du livre de Shmuel, c'est-à-dire de mettre en place la Malchut Israël, qui non seulement pourra réunir le peuple juif pour de vrai, mais qui pourra, fort de cette union retrouvée, eh bien dévoiler celui qui est Behemet Echad ou Shmo Echad. Ça sera ça le but du livre de Shmuel. Le livre de Yehoshua avait pour objectif de nous montrer l'importance de la terre d'Israël, l'importance de l'appartenance à la terre d'Israël pour le peuple d'Israël et l'importance de la Torah d'Israël. Le livre de Shoftim nous montre que Am Israël, même s'il se comporte mal, n'est pas abandonné par Dieu. Il nous apprend que des fois, il faut savoir faire preuve de règles qui ne sont pas les règles générales. Mais dans des cas particuliers, il faut savoir également prendre sur soi d'être le seul Ish Babayit. Et il faut, quoi qu'il arrive, garder cet idéal d'union du peuple juif comme étant l'union, comme étant l'idéal numéro un. Fort de ces deux livres-là, Yehoshua et Shoftim, on peut enfin arriver dans l'idéal de la prophétie avec la construction de Malchut Israël. Ça va être le propre, comme je l'ai dit, du livre de Shmuel que nous allons commencer à étudier dès la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, nous nous intéresserons au livre de Shmuel, chapitre Aleph Vebet. Et ça sera la semaine prochaine. À bientôt les amis, Shabbat Shalom.